avoir une description assez précise donc, de la façon dont ils vivent, de leurs croyances, de l'importance aussi de la musique chez les chauves, parce que le père de la jeune fille joue du timbula, ou marimba, qui est très important chez les chauves. Et en fait, dans le deuxième volume, ça va être le livre de l'eau, parce que tout ce petit monde, si je puis dire, va partir avec le sergent portugais qui a été blessé. Et là, ils vont aller donc dans le seul hôpital de la région et il est dirigé par un missionnaire suisse qui s'appelle Jean Joliègue et qui est devenu en fait le médecin personnel de Nungunyan à la cour de l'empereur en fait. Et en fait, c'est assez amusant parce que avant de venir ici, enfin, j'avais pas réalisé. Parce qu'en fait, il est originaire du canton Vaud. Donc, c'est pour ça. Donc, si vous voulez bien, j'ai choisi un petit extrait de... Ah, donc, d'abord, je voulais peut-être vous parler. Vous connaissez un peu cette histoire de mission suisse en Amérique australe, non? Oui, alors, du coup, voilà, j'ai... en fait, donc, les missionnaires suisses donc, sont parmi les premiers à être allés donc, en Afrique australe. Et en fait, ils avaient la particularité d'évangéliser en langue africaine. Contrairement aux Portugais, eux, tenaient à tout prix à ce que les Africains apprennent le portugais. Pardon. Donc c'est comme ça que les Suisses en fait, ont fait traduire la première Bible en langue chope, donc la langue de la jeune fille, qui s'appelle le Buku, qui vient de l'anglais book. Donc en chope, la Bible, c'est Buku. Et en fait, c'est un livre qui a été édité à Lausanne en 1883. Et donc, parce qu'à cette époque-là, en fait, la présence catholique sur le littoral mozambicain est très faible. Les seuls prêtres catholiques sont ceux qui servent comme aumôniers auprès de la population portugaise et viennent souvent des Indes et de Goa. Et donc, parce qu'il y a aussi la liberté religieuse, en fait, à ce moment-là. En fait, le traité de Berlin accorde en fait la possibilité aux différentes missions, prêtres catholiques ou protestantes, de se rendre au Mozambique. Et donc les missionnaires suisses en fait vont chercher à entrer en contact avec Nungunyan, et donc c'est ça, ce docteur Georges Lien, médecin missionnaire, va devenir le médecin privé de l'empereur. Et on va le surnommer Doc Hotel, ça veut dire docteur en zoo. Donc je vais vous lire un petit extrait de l'arrivée de la jeune fille et de son père. À l'hôpital du médecin suisse, donc Georges Liègle, un chapitre qui s'appelle Un hôpital dans un monde malade. Assise à la porte de chez elle, Bertha Rive s'était endormie en conservant un album de photographies ouvert sur sa poitrine. Elle attendait l'arrivée de son mari, Georges Liègle. En attendant nos pas, elle se réveilla et nous fixa calmement comme que nous avions été annoncés. Lorsque nous nous fîmes plus proches, mon père se limita à perveter, sifflant et prolongé. Je pris l'initiative d'éclairer le but de notre visite. Je compris tout de suite que la seule langue dans laquelle nous pourrions communiquer serait le Tshishanga. Il n'en était pas moins étrange de communiquer avec une européenne dans une langue africaine. Pour la première fois, je fus fier de la prédominance d'un idiome africain. La femme semblait faite en cire, tellement frêle et fragile que je me suis vue chuchoter, comme si je craignais qu'elle ne se défie au simple effleurement de ma voix. Elle fut distante, mais serviable. Oui, accepta-t-elle sans hésitation. Nous pouvions passer la nuit dans l'une des remises de l'hôpital, tant que son mari ne serait pas rentré. Elle nous imposait une seule condition. Que celui-là, dit-elle en indiquant mon petit vieux, serait le seul homme à partager la chambre avec moi. C'est mon père, précisai-je. Madame Rive sourit, observant à la dérobée mon géniteur qui ne bougeait pas. Et maintenant, contre sa poitrine, le vieux chapeau de paille. Elisabeth va s'occuper de vous, conclut la Suissesse. Asseyez-vous, elle va venir vous voir. Délicatement, Nous nous éloignâmes pour prendre place sur un vieux tronc qui, dans la cour, servait de siège, et nous vîmes comment là tout était propre et ordonné, contrastant avec le désordre de Sanabénène. À un certain moment, la femme du médecin nous appela en exhibant un appareil photographique. Je pensais qu'elle voulait un souvenir de nous, et mon père crut la même chose parce qu'il se hâta d'arranger ses cheveux. Bertha voulait uniquement discuter du passe-temps de son mari. Elle se sentait soulagée parce que Georges avait oublié d'emporter avec lui son inséparable Kodak. Elle ne l'avait jamais dit à son mari, mais les images des noirs presque nus la dérangeaient. Elle feuilleta l'album pour illustrer cette naïve impudeur. Une chose était de savoir que Georges croisait quotidiennement ses femmes, une autre était de soupçonner que son mari s'appesantissait dans la contemplation de ses corps lascifs. Pour cette raison, Bertha sélectionnait en connaissance de cause les pellicules qui devaient être tirées localement et celles qui le seraient en Suisse. Au siège de l'église presbytérienne de Vaud, les photographies souffraient une deuxième censure. De retour à Mont-de-la-Case, les images arrivaient triées et transformées en conformité avec les préceptes évangéliques. Par exemple, toutes les chaises où s'appuyaient les régulos, donc les chaises traditionnelles, avaient été effacées. Bertha savait pourquoi. Les chaises étaient des signes de modernité pécheresse. Ces objets provenant d'Europe défiguraient l'idée d'un peuple pur qui résistait au temps dans son état naturel. Les pasteurs suisses avaient été choisis pour sauver un peuple sauvage et originel. La fonction divine de nommer ce peuple leur avait incombé. Les avait ainsi désignés Watsonga. Et la responsabilité sacrée de garder ce troupeau à l'abri de l'influence pernicieuse des temps nouveaux leur revenait. Là, on est vraiment aussi dans une autre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout à fait une autre langue, mais tout à fait autre chose. Et là, effectivement, toute la difficulté était de. Enfin, et, puisque c'est pas tout à fait terminé, mais de conserver à la fois, donc, quand même, un côté très factuel et très narratif, presque historique, et parfois des choses politiques. Mais en fait, dans cette trilogie, en fait, le premier des enjeux, c'est que j'ai dû faire énormément de recherches historiques, vous pouvez vous en douter, sur la vie quotidienne, donc dans l'état de Gaza à la fin du 19e, la culture choc, évidemment, qui je ne connais pas, et aussi l'histoire coloniale portugaise. Il y a tout ça dans ces. Et ensuite, il y a une autre question qui se grève bien sûr là-dessus, c'est l'articulation entre les langues africaines, le tchitchop et le tsangan, et le portugais. Parce qu'en fait, il y a une sorte de. Le langage est marqué en fait selon que c'est un Africain ou un Portugais qui parle. Et en tout cas, par rapport au choix du lexique, si vous voulez. Donc par exemple, on a un mot en portugais qui est assez commun, entre guillemets, qui est feiticeiro, qui signifie donc, pour traduire par sorcier, pour quelqu'un, si c'est un Portugais qui ne connaît rien de l'Afrique, par exemple. Et qu'en revanche, on peut traduire par féticheur. Et ce qui est assez amusant, c'est que si on traduit par féticheur, en fait, on retourne à l'origine du mot fétis en portugais, qui veut dire sort et amulette. Et donc, en fait, cet exemple, dans cette traduction, ça souligne vraiment la nécessité de prendre en compte, en fait, l'historicité des mots qu'on choisit dans le choix du lexique, en fait. Donc c'est pareil, on a le mot par exemple palote en français, et que souvent on traduirait plutôt par hutte, mais sauf que ce mot palote en français, en fait, il est attesté en français dès le XVIIe siècle chez Jean Mocquet, par exemple, dans son voyage en Afrique. Et en fait, ça vient, ce mot palote vient du portugais palote, par exemple, qui utilise. Donc, il n'y a qu'autre ici. Mais parfois, justement, en fait, cette même cette volonté de rechercher une historicité des mots choisis a pu, en fait, m'amener à d'autres choix.